RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est en direct, c'est avec vous, bien sûr. Aujourd'hui, notre trio de GG, Zora Habitant, cadre de la fonction publique, Alexandre Mafoudi, qui est militant associatif du côté de la Gironde, et nous sommes avec Mehdi Ghezard, chef d'entreprise. Le à vous de choisir tout à l'heure à 11h, vous savez qu'on vous propose toujours deux sujets de discussion et c'est vous qui choisissez celui dont vous vouliez que nous parlions tout à l'heure à 11h. Le jeu Antifa vendu à la FNAC, est-ce que ce type de jeu dans les rayons de la FNAC c'est choquant, oui ou non? Ou la réforme des retraites, le calendrier qui se précise. Vous votez sur internet rmc.fr et vous nous dites de quel sujet vous voulez que l'on parle ensemble. À 11h20, tout à l'heure, le GG 7 et match. Les Bleus sont-ils des pleutres sans courage? C'est Sandrine Rousseau qui les accuse, les Bleus,
Sandrine Rousseau,
qu'ils aimeraient bien, elle aimerait bien les voir affirmer les droits de l'homme, la liberté d'expression lors de leur match, avant leur match au Qatar. Alors, est-ce qu'elle sont des lâches, les Bleus, des pleutres, c'est ce qu'elle dit. Hein. On en parlera tout à l'heure avec
elle
vous à 11h20. En attendant, évoquons le blocage des routes par les écologistes. Est-ce qu'on doit durcir les sanctions contre ce mode d'action radical? On en parle là encore avec vous au 32-16.
RMC, les grandes gueules.
Premier qui bouge l'encul. Premier qui bouge l'encul. Vas-y. Premier qui bouge l'encul. Premier qui bouge l'encul, je me bats les couilles.
On dirait un sketch.
Oui, c'est, je te jure, c'est vrai. Vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. En fait, que se passait-il? On était du côté de la porte de Saint-Cloud, enfin du périph'. Il y avait des militants qui s'étaient installés sur la voie face aux voitures qui ont bloqué la circulation. Et là, il y a un automobiliste excédé qui est sorti de sa voiture et qui les a pris un à un, les a mis sur le côté de la voie en disant le premier qui bouge.
On a bien compris.
Voilà, vous avez bien compris.
Je lui fais des choses pas très catholiques.
Exactement.
L'entrave à la circulation est un délit stipulé par l'article L412-1 du Code de la route. Toute personne bloquant délibérément la fluidité du trafic sur une voie ou y installant un obstacle est exposée à d'importantes sanctions. C'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. D'ailleurs, des gilets jaunes ont été condamnés en décembre 2018. Deux gilets jaunes avaient été condamnés en comparution immédiate pour avoir érigé des barricades enflammées sur l'autoroute A16. Les deux hommes en question avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis pour entrave à la circulation. Et puis en juillet 2019, 8 gilets jaunes avaient été condamnés également pour entrave à la circulation. Ils avaient bloqué la RD 901, la route départementale 901 à Beauvais. Ils avaient placé des pneus au niveau du rond-point. Ils avaient mis le feu à des pneus. Mais ils avaient pris quand même des amendes allant de 300 à 800 euros. C'est vrai que les militants de dernière rénovation, on les cherche pas. Il y a une espèce d'impunité, en tout cas une mansuétude de la part de la police. Pour l'instant, on n'intervient pas. Et ce qui fait qu'il y a parfois une altercation un peu violente entre l'automobiliste et le militant, ça risque un jour de mal finir. Alors faut-il les stopper, leur mettre des amendes et leur dire que quelle que soit la cause, on ne peut pas empêcher les gens tout simplement de circuler.
Alors, Monsieur Alexandre, tu pourrais le faire, ce genre d'action ou pas?
Alors, je préfère éviter les actions bloquantes parce que je trouve que les Français se sentent déjà bloqués dans leur vie. Donc, ils n'ont pas d'argent, il y a des embouteillages partout. Il y a une angoisse globale. Donc, quand tu empêches, alors, si tu bloques les portes de l'Élysée ou les portes de la cimenterie Lafarge parce qu'elles financent Daesh, etc., comme l'a fait Extinction Rebellion, je trouve ça, c'est des actes, je l'accepte. Et globalement, le particulier, quand tu mets du feutre sur la trottinette pour pas qu'il puisse aller au travail le matin, ou que tu fais des blocages sur les routes, je trouve que pédagogiquement, bon, d'abord je salue quand même leur courage, parce qu'ils sont courageux. Je trouve que c'est dangereux, donc ils devraient mieux s'y prendre. Quand Extinction Rebellion l'a fait, ils avaient un barrage de voitures qui était là pour les protéger, pour pas qu'on leur roule dessus. Là, ils sont vraiment tout seuls devant les voitures, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, la voiture c'est une arme, les gens ils pètent les plombs dans leur bagnole. Et évidemment, les gens qui les bousculent ont tort. Et je veux reconnaître aussi que je pense qu'ils ont raison sur l'urgence d'agir. Donc, ils sont jeunes, ils ont peur
les
pour l'avenir.
Les gens qui les bousculent ont tort.
Les gens qui les bousculent ont tort. Ah, oui.
Les gens, alors, excuse-moi, Alexandre.
C'est une voie de paix, c'est un crime. Donc, bloquer la circulation, c'est un délit, mais bousculer quelqu'un, c'est...
Attends, excuse-moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le moteur et on attend.
Oui, on appelle la police et la police les déloge.
On s'en
tient au droit.
Excuse-moi, Alexandre, on va reprendre les choses. Parce que ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre.
Ça dépasse.
Non, ça me dépasse. Donc, t'as une personne qui se réveille à 7h du matin Parce que, par exemple, celui de Pont-Saint-Cloud, il a été fait à 19h, comme par hasard, un vendredi soir. T'as un type qui se réveille à 7h du matin ou 6h30 du matin, qui va bosser toute la journée. Toute la journée, il est en train de travailler. Parce qu'il n'arrive plus à payer son carburant. Parce qu'il n'arrive plus à payer son électricité. Parce que les courses ont augmenté de 20 à 30%. Non, mais attends, excuse-moi, Azora. Parce que les courses, ils ont augmenté de 20 à 30%. Parce que l'électricité a augmenté de 50%. Parce que le carburant a augmenté de 30%. Parce que les loyers ont augmenté. Parce que les taux de crédit ont augmenté, donc il ne peut plus être propriétaire. Parce que. Il rentre chez lui. Après une journée de merde, d'accord, où il fait froid, il rentre et il trouve 6, 7, 8 énergumènes qui lui bloquent la route. Et là, le type, il doit faire quoi? Il doit faire du yoga dans sa voiture et dire non, 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 c'est pour l'écologie, non, on va rester dans la... Il va couper le moteur, il va rester dans le froid parce que s'il laisse le moteur allumé, ça lui consomme du carburant qui paye beaucoup plus cher, mais il va éteindre le moteur juste parce que ça va faire plaisir à 7 ou 8 écervelés qui bloquent une route. Alors là, je ne te rentre pas dans le cas de figure de une femme enceinte, un diabétique, une maman ou un papa qui doit récupérer ses gosses et qui sont en retard, des nounous qui doivent
Toi, s'il y en a un qui se met dans ta voiture,
je ne passerai plus sur les grandes gueules pendant bien longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est aussi simple que ça.
T'arriverais pas à garder ton cap.
Tu me prends en otage. Donc c'est une forme de prise d'otage, oui, parce que tu me bloques, à part la police, il y a personne qui peut me mettre de côté. Enfin, je sais pas. Moi, qui peut me mettre dans un coin et ne pas me dire de bouger à part la police? C'est une autorité. Est-ce que c'est une autorité? C'est pas une autorité, ces gens-là.
Oui, mais donc pourquoi ils me bloquent comme
ça? Non, je lui casse pas la figure, mais je le prends. Je te dis pas qu'il faut le violenter, mais je le prends, je le mets de côté, je lui dis, mon ami, tu vas rester ici, tu vas me laisser passer. Tout simplement.
Déjà, si t'es poli, ça sera mieux.
Mais après, je sais pas quoi après dire. Ces jeunes sont pas violents, ces jeunes.
Parce qu'on d'abord, contrairement à ceux que tu citais qui avaient fait des barricades et qui ont été condamnés, ils ont fait des barricades enflammées. Là, ils font rempart de leur corps. Voilà. C'est pas
donc,
pareil.
Simplement, donc, les portes
et ils ont pas envie, mais dit non plus, de passer leur jeunesse sur les périphes à faire des blocages. Alors, et ils font ça parce que le gouvernement n'agit pas, ne tient pas ses engagements sur le dérèglement climatique.
Au début, je t'ai pas coupé parce que tu as dit quelque chose d'exceptionnel. Si ces gens-là, ils vont bloquer la cimenterie à Issy-les-Moulineaux ou un truc comme ça, de Lafarge, vont bloquer un ministère, s'ils vont bloquer, ok, mais pourquoi ça tombe toujours sur les usagers de la vie courante? Moi, c'est la seule chose.
Mais moi, je leur donne ce conseil volontiers maintenant. Je leur dis, réfléchissez bien à la portée de vos actions, parce qu'effectivement, parfois, vous pouvez sanctionner.
Si tu veux me bloquer un convoi de ministres ou un convoi de députés, ou tu veux me bloquer l'Assemblée nationale, ou tu veux me bloquer ce que tu veux.
Pas le citoyen qui bosse.
Mais pas le citoyen qui, toute la journée, il est en train de galérer déjà, et qu'en plus, pour rentrer chez lui, il va encore galérer en plus.
Oui, mais.
Leur habitant.
Alors, en fait, c'est.
Ouais. Tu fais quoi?
Non, en fait, là, ce sont des jeunes, ils ont quoi, 20 ans, effectivement, c'est pas très intelligent de faire ça, mais n'empêche que l'injonction des militants et activistes écologiques qui sont très éparpillés et qui sont pas tous d'accord à la fois sur les idées qu'ils défendent, mais aussi sur les stratégies qu'ils défendent, font que des jeunes... qui sont et comme le souligne Alexandre, qui sont un peu, j'allais dire en solo, à droite à gauche, à mener des actions. Eux pensent le bien fondé de leur action, je veux dire. Mais eux, ils sont biberonnés à l'urgence climatique, à l'éco-anxiété, à tout ce qui est en train d'inventer. En tout cas, de vendre des gens, et eux se sentent concernés. Donc, j'allais dire, c'est des jeunes. T'as un adulte, t'as 40, 50 balais, t'es dans ta voiture, tu tombes sur des jeunes comme ça. Moi, personnellement, je tombe sur des jeunes comme ça, je descends de ma voiture, je vais discuter avec eux, je leur dis, écoutez, soyez gentils, il faut laisser passer les gens.
Mais ils resteront sur place.
Non, mais peu importe.
Ils vont te dire, d'accord, j'aurai le temps, on va se lever, on va partir.
Mais fais quoi? Tu les tapes, tu les insultes.
Je suis en train de te dire,
t'appelles
tu les tapes
la police, voilà, mais tu peux pas rentrer.
Regarde juste les images de
RMC Story.
Oui, mais ils ont
tu vois comme quoi il y a des femmes. Regarde, c'est des femmes, c'est pas Mehdi avec ses 90 kilos. C'est des femmes qui sont en train de péter les plombs parce qu'ils doivent récupérer leurs gamins,
oui,
parce qu'ils sont bloqués sur l'autoroute.
Je suis d'accord, mais des choses comme ça, nous allons en avoir beaucoup de la part de la jeunesse.
Ils ne vont pas.
Mais parce que
ce qu'il a dit Alexandre.
En fait, ils sont en train de gagner la bataille.
Mais oui,
regarde, à Sivens, c'est terrible à dire, mais c'est la mort de Rémi qui a fait qu'on a remporté la bataille. Et c'est insupportable. Et là, c'est pareil. Il va falloir qu'il y ait du sang versé pour qu'on les écoute. En fait, c'est catastrophique ce qui se passe. Et c'est catastrophique comment la France ne tient pas ses engagements. On parle beaucoup de climat, mais on parle pas assez de biodiversité. Oui, en fait, la disparition des insectes et des amphibiens, ça nous concerne.
C'est ça qui est dangereux, et ça, c'est le problème des politiques. Parce que les politiques ont pris l'habitude de céder uniquement lorsqu'il y avait de la violence.
Mais oui.
Ou du sang.
Souvenez-vous.
Ou du sang.
L'écotaxe.
Tu as dit.
L'écotaxe. Finalement, on a renoncé à l'écotaxe à 1 milliard d'euros,
les bonnets rouges
à l'État, ouais. Parce que les bonnets rouges cassaient et bloquaient. Les gilets jaunes, finalement, ont obtenu de l'argent. Alors, je sais que quand on les interroge, ils ont l'impression de ne pas avoir obtenu grand-chose. Mais on a quand même développé 11 milliards d'euros. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à force de céder quand il y a de la casse et de la violence, effectivement, ça pousse les
activistes personne ne parle de la cause qu'ils défendent. Et il y a une des causes qui va être vraiment une bombe sociale dans les années à venir, c'est la question du logement.
C'est la rénovation.
La question du logement, et ça fait des années que je le dis ici au GG, c'est vraiment une bombe sociale parce que le mal logement, en plus avec la loi qui vient de tomber, où les impayés de loyer, les squatteurs vont quasiment être mis au même plan, même s'il y a une possibilité pour ceux qui sont de bonne foi de saisir la justice afin que le bail ne soit pas résilié. Mais la question de la rénovation énergétique des logements sociaux, c'est une question hyper importante. C'est-à-dire, que ces militants activistes l'appréhendent comme ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Et du point de vue pédagogique, c'est un peu nul parce que ça ruine la cause. Mais il faudrait faire des blocus devant les bailleurs sociaux. Les obliger à isoler tous ces logements sociaux où les gens sont chauffés pour rien.
Mais quand ils disent ça, parce que moi, face à ces militants, je leur dis, mais allez bloquer effectivement les ministères, etc. Mais ils disent, quand on fait une manif devant un ministère, personne n'en parle. Non, oui, il y a aussi une responsabilité des médias. Il faut reconnaître que là, aujourd'hui, on en parle, on montre les images. Ces mêmes jeunes, devant le ministère de la Transition écologique ou devant le siège de Total Énergie, sincèrement, personne n'en parle.
Quand ils se sont fait gazer, Extinction Rébellion, ça a fait le buzz. Marion Cotillard, Hyard, Cyril Dion, tout le monde s'est
pensé. Mais ça, c'est la responsabilité des politiques.
C'est comme ça qu'on existe.
Qui ne cèdent que face au buzz médiatique, en fait, c'est ça.
Nous sommes avec Thomas. Bonjour, Thomas.
Bonjour.
Thomas de Loire-Atlantique. Est-ce que vous êtes pour ce que font ces actions que font ces militants, contre, dites-nous alors.
Alors, la question, c'est pas vraiment d'être pour ou contre. La question, c'est à part faire des actions comme ça, coup de poing, où on va en parler, je vois pas comment, en tant qu'activiste écologiste, on peut se faire entendre. Donc, en fait, le problème va toujours se poser. Si on interdit, si on augmente les amendes, ça va rien changer, en fait. Ça va absolument rien changer. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus, ils sont prêts à mettre leur vie en danger. Il y en a certains qui se sont accrochés à des endroits, ça aurait pu être vraiment dangereux. Donc à partir du moment où on est prêt à mourir, c'est pas une amende qui va changer les choses, quoi. Donc je pense que c'est plus...
Ouais, cette radicalité, quand même, mais elle m'effraie. Hein. On est prêt à mourir pour une religion, on est prêt à mourir pour l'écologie. On est quand même dans une radicalité aujourd'hui qui est assez effrayante.
Mourir pour l'écologie, ça va finir par arriver, ça c'est sûr. D'une façon ou d'une autre. Ça, on dit là, oui, mais est-ce qu'on peut les empêcher de faire ça? Je pense que déjà rien que sur un plateau comme le vôtre, si de temps en temps, on recadrait un Mehdi ou une Sarah qui se permettent de dire, moi je vais prendre deux bains parce qu'un bain ça pollue pas assez, ou Mehdi qui dit, oui, moi je prends l'avion si je veux, je prends l'avion tout le temps. Je veux dire, c'est normal que de l'autre côté ça va se radicaliser, puisque de l'autre côté ça se radicalise. Je veux dire, quel plaisir.
C'est pas faux d'ailleurs.
Une différence quand même. Attendez. Mehdi, c'est pas un militant. Mehdi, il est pas militant. C'est juste. Non, mais vous comprenez.
Il veut pas imposer.
Non, mais Mehdi ne veut pas imposer son mode de vie. Il dit, moi, j'ai une opportunité. Je saisis cette opportunité et j'assume.
Mais l'écologie, c'est collectif.
Il ne veut pas imposer son mode de vie.
Excusez-moi, Thomas.
Jusqu'à preuve du contraire, Mehdi, il me semble qu'il est mécano à la base.
Non, pas du tout. Je suis chef d'entreprise. Je suis pas mécano.
Je sais pas d'où t'as commencé ou comment. Enfin, chef d'entreprise, ça veut pas dire grand-chose.
Mais vous êtes livreur, Thomas. Vous êtes livreur, donc vous livrez en voiture.
Non, en camion.
Et vous me parlez d'écologie par rapport à moi. Donc vous livrez en camion et vous me parlez d'écologie parce que j'ai pris un avion en Paris-Doha.
Bah oui, parce que moi j'ai la
possibilité. C'est très paradoxal quand même.
Donc vous faites ça sur le travail.
Ouais, bah c'est donc.
J'ai pas fini, Mehdi.
Non, je vais vous livrer aussi en camion. C'est la même énergie.
Attention. Jean Covici, que. Enfin bon, tu l'as un petit peu dénigré. C'est son boulot en fait. Je sais pas quel est ton boulot, mais lui, c'est son boulot. C'est-à-dire que.
Son boulot de rationaliser le nombre d'avions que chaque être humain va prendre par an.
C'est un scientifique. C'est-à-dire que par A plus B, il va te prouver pourquoi ces avions-là, il faut pas qu'ils volent. Toi, c'est juste une opinion que t'as. Donc, c'est pas ton métier en fait. Donc tu donnes une opinion, t'as une grande écoute là.
Mais les grandes gueules justement, c'est donner son opinion. Je suis pas scientifique, je donne mon opinion parce que je suis une personne qui travaille, qui a un métier, qui
permet de dire que il a tort.
Bah il a tort, oui, Jean-Claude.
Mais Thomas, il a tort parce que ce scientifique va me dire de voyager
pas en mettant en cause Mehdi que tu vas faire avancer le débat. Donc effectivement, il est un peu militant Mehdi pour le droit à polluer et à consommer. C'est possible, on peut dire ça.
Si je peux prendre l'avion trois fois, je le prends trois fois dans la journée.
D'accord. On peut dire que c'est un peu du militantisme, si tu veux. Néanmoins,
Alex, Alexandre.
Là où c'est intéressant, c'est quand on dit qu'effectivement, ça va déraper. Voilà. Donc moi, j'en parlais avec... j'ai rencontré, comment il s'appelle, un maire de Scooter, Olivier de Scooter, là, le grand rapporteur spécial, ancien rapporteur sur le droit à l'alimentation des peuples et actuel rapporteur à l'ONU sur l'extrême pauvreté. Sujet passionnant. Un mec extraordinaire, juriste à Louvain. Et il disait, à force de que l'Europe n'écoute pas les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, ça va finir par... mal se passer.
C'est clair.
Ça s'est déjà mal passé, comme tu le disais, Alain, parce qu'il y a Rémi Fraisse qui s'est pris une grenade sur la tronche. Il avait les mains levées, il marchait vers les gendarmes et il disait « Arrêtez, vous allez tuer quelqu'un ». Et c'est comme ça qu'on a tué ce gamin qui faisait partie de la FNE, qui était un mignon petit militant, qui méritait pas du tout ça. Et donc, il faut pas que ça se règle comme ça. Il faut pas qu'il y ait des millions de réfugiés climatiques qui se retrouvent sur les routes parce qu'on n'a pas fait le job. Il faut pas que les écolos se fassent tuer parce qu'un automobiliste qui pète les plombs va leur rouler dessus. Et il faut pas qu'il y en ait un qui décide de devenir violent, parce que c'est aussi un risque, et t'as pas tort, Olivier, il y a un risque de basculement dans la violence, parce qu'on pète les plombs, parce qu'on nous écoute pas, parce que c'est dingue. La capacité qu'ils ont à pas faire face aux problèmes.
Quand Thomas livreur un camion en poids lourd me dit « Oui, moi je suis un écolo », c'est un peu se foutre de la gueule du monde.
Il parlait de tes loisirs, c'est pas pareil.
C'est pas un plaisir de prendre mon camion, tu vois, d'ailleurs je suis en arrêt, tu vois, parce que j'ai mal partout. Mais c'est pas un plaisir de prendre mon camion, c'est mon travail, c'est comme ça que je fais bouffer mes enfants en fait.
D'accord.
Et si je pouvais faire autrement, j'essaierais de faire autrement. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre solution. Par contre, sur mon plaisir moi personnel, j'ai ma famille moi qui est en Uruguay, je ne prends pas l'avion. Je prendrai l'avion une fois tous les 10 ans. Je sais très bien ce que c'est. J'ai des copains moi qui partent en week-end. Ils faisaient ça il y a pas longtemps. L'avion pas cher. Partir en week-end 2 jours dans une capitale européenne. Ça c'est fini. Moi je le fais pas. Je le ferai plus jamais. C'est comme ça. J'ai 45 ans. Je sais que les jeunes pensent plus comme ça. Je sais que bon passer la quarantaine quand on est un peu plus à l'aise financièrement, on se dit pourquoi maintenant que j'ai un peu de sous, on va venir m'embêter. C'est sûr que quand on est jeune et qu'on n'a pas les moyens de voyager, c'est plus facile de dire je vais pas voyager. Ah. Mais quand même.
Thomas, on va continuer la discussion. Bonne journée du côté de Rézé, c'est ça?
Merci Thomas. Voilà, bonne journée à tous.
Salut Thomas, à bientôt pour discuter avec les GG. David, dans la Somme, lui, il trouve ça débile, ce genre d'action de la part des militants écologistes qui se mettent sur la voie pour empêcher les voitures d'avancer, pour alerter sur le réchauffement climatique, la voiture polluante. On va continuer d'en discuter. Est-ce qu'on doit durcir les sanctions contre ces militants? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On discute avec Alexandre Mafoudi, militant associatif écologiste, Zorabitant, cadre de la fonction publique, et Mehdi Ghezzar, chef d'entreprise. On discute de ces actions radicales. En fait, on n'a quasiment pas une semaine sans une action radicale de la part de ces militants. Alors, on a en tête les plus spectaculaires. Vous savez, on a jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh.
Y a des militants qui étaient vitrés.
Qui se sont collés les mains aussi contre des tableaux. Et puis on a ceux qui s'installent sur les routes et qui bloquent la circulation. Est-ce qu'on doit durcir les sanctions contre eux ou au contraire les remercier, parce que ce sont des lanceurs d'alerte? David, bonjour.
Bonjour.
Bonjour David de la Somme. Est-ce que vous pourriez perdre patience ou vous asseoir à côté d'eux, dites-nous?
Écoutez, moi je perdrais plutôt patience à mon avis. Je pense que je pourrais réagir comme la personne qu'on a vue tout à l'heure, mais bon, pas en employant les mêmes termes, mais la réaction à mon avis serait la même. Parce que autant la revendication on peut la soutenir, autant l'action je trouve ça complètement débile. Parce que là, à part embêter des gens qui rentrent chez eux pour aller travailler ou qui partent travailler, qui n'y sont pour rien au niveau de l'action climatique, Moi, je suis comme eux. Hein. Si demain, ils m'arrêtent, moi, je suis... Qu'est-ce que vous voulez que j'agisse à part à mon petit niveau sur l'écologie, je peux rien faire au niveau.
Oui, mais en fait, c'est pas vous qui êtes visé. C'est à travers ce blocage et l'exaspération que ce blocage peut provoquer, c'est interpeller ceux qui nous gouvernent. Oui. Si ces images, c'est un peu comme les, vous savez, les cheminots qui font grève, ils bloquent, ils prennent en otage des usagers, mais en bloquant les usagers, ils veulent faire plier le gouvernement. Ben c'est un peu la même chose en fait. Ils veulent faire plier le gouvernement. Et là, le combat, c'est rénovation, hein, cette dernière rénovation énergétique, c'est supprimer les passoires thermiques, etc.
N'empêche que les jeunes, ils sont courageux quand
allez-y,
même.
David.
Ils prennent des risques. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand ils font leur action en direct, là, qui est-ce qu'ils embêtent? C'est pas le gouvernement. Hein. C'est les personnes qui sont dans les files de voitures qui attendent pour rentrer chez eux.
Oui, mais vous êtes exaspéré. Et ça, le gouvernement, il ne veut pas que vous soyez exaspéré parce que ça peut se transformer en vote de colère.
Ben ça va finir. De toute façon, ça va finir comme ça. Comment croyez-vous que ça va finir? Ça va finir jusqu'au moment où il y en a un qui va en choper un, qui va lui porter un mauvais coup ou
et là, le gouvernement réagira. Ça sera terrible.
Oui, il sera trop tard, mais ça sera de la faute de qui?
Moi, ce que je crains, c'est pas le mauvais coup, c'est la voiture. Hein. C'est quelqu'un qui accélère dessus, parce que ça s'est passé régulièrement dans des vélorussions, des manifestations à vélo, hein. Des gens qui ont pété les plombs, et avec les gilets jaunes.
Les jeunes, il y avait des gens qui voulaient
battre. Oui, qui étaient excédés, qui roulaient sur les ronds-points.
Attention, sur les ronds-points.
Oui, et ça, la voiture, c'est une arme, il faut le rappeler, la voiture, c'est une arme.
Attends, ça se terminera mal, David, c'est ça,
Oui, mais dans un sens, je dis pas que la réaction est compréhensible. Après, le but, ça, c'est pas qu'il se passe quelque chose de grave, mais la réaction est compréhensible. Imaginez quand vous êtes dans une file de voiture, que vous, comme disait Mehdi, vous rentrez chez vous après 8 heures de boulot et que vous avez 6-7 gugus là qui sont assis devant vous. Exaspérant. Alors que vous êtes pas, vous personnellement, vous pouvez rien changer, mais c'est vous qui êtes emmerdé. Comment vous voulez réagir? Excusez-moi, s'ils avaient un petit peu de courage, là, pourquoi ils vont pas au Qatar manifester devant les stades de la Coupe du Monde? Ils polluent.
Je veux pas défendre les jeunes, mais quand bien même. Cette génération, et moi, je vois, j'ai ma petite fille qui va avoir 12 ans, et j'ai 5 petits-enfants, et mes petits-enfants sont déjà très sensibles à la question écologique. Je trouve ça plutôt bien. Mais en même temps, je pense que ces jeunes ont cette réaction parce que nous, notre génération, on n'est pas assez sensible sur ces questions-là aussi. Mais on est un peu en retrait. Si, on est un peu en retrait parce qu'on est une génération où nous, c'était pas un enjeu dans notre quotidien. Il faut quand même qu'on soit honnête avec la façon dont nous avons vécu. On a une génération qui est très anxieuse et qui s'inquiète de l'avenir. Bon. Voilà, notre rôle peut-être, c'est, comme disait Alexandre, c'est de leur dire que ça, c'est pas du tout une action qui vaut le coup parce que elle prend en otage la population et que du coup elle décrédibilise leur combat, mais que leur combat est louable et qu'il faut les accompagner et pourquoi pas. Mais en même temps, ils ont pas les bonnes stratégies, ils ont pas les bonnes façons de faire, mais ça veut pas dire que leur combat est pas important accompagné.
Aujourd'hui, quand Olivier prenait l'exemple des cheminots qui bloquent à la SNCF. Ou des ouvriers des raffineries qui bloquent. L'augmentation de 300 balles, tu l'as dans le mois qui vient, ou le temps, si tu veux, que tout le monde se mette
autour de la table. Mais là, c'est plus grave.
Oui, mais là c'est pas, tu vas pas clouer les avions au sol tout de suite.
Non, mais n'empêche que
tu vas pas arrêter le pétrole tout de suite.
Non, le changement. Dernière rénovation, c'est pas ça.
Mais non, mais je parle de l'action écologique de manière générale.
Peut-être qu'à l'Assemblée, puisqu'il y avait un amendement de l'opposition pour débloquer plus d'argent
pour la rénovation.
La rénovation, parce qu'il faut beaucoup d'argent, parce que c'est pas simple. Et ben peut-être
que là. Qui a été voté et que le gouvernement a fait sauter.
Dans ce cas-là, cet amendement, tu le prends.
Oui, Olivier. Mais tu sais que ce sont des actions sur l'écologie qui sont lentes.
Mais on parle de
la rénovation, mettre en place un bouquet économique. C'est la Cour des comptes qui dénonce. Il y a des réformes qui sont en place et ça marche pas. Le seul truc qui marchait, c'était l'isolation à 1 euro. Ils l'ont enlevé. Et tout le reste, c'est un capharnaüm. Personne n'y comprend rien. Même les spécialistes, ils savent
pas. La prime rénov', par exemple, ça marche pas.
Il y a même pas 30% des gens qui vont au bout parce que c'est trop compliqué.
On parlait tout à l'heure d'être visionnaire et de planification. Voilà une question qui est longue dans le temps. C'est-à-dire l'écologie, le climat, la nouvelle façon de vivre pour cette génération. Parce qu'ils vont vivre différemment. Qu'on le veuille ou non, dans 30 ans,
c'est ce que disait Alain.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un accompagnement dans le temps et que ce qu'ils font aujourd'hui paiera dans le temps.
Chacun est à sa place. C'est-à-dire que ces jeunes.
Moi, je pense qu'ils vont gagner.
Non, mais si t'es jeune, si t'es pas un peu énervé.
Mais oui, en plus.
C'est normal. Et t'es un peu excessif, etc.
Exactement.
Moi, ce qui m'agace un peu, c'est quand les adultes se servent d'eux.
Oui, tout à fait.
et un peu d'une façon un peu démagogique.
Tout à fait.
Ils sont à leur place, mais le rôle peut-être de leurs parents, c'est de dire attention, tu vas te prendre un mauvais coup.
En tout cas, moi je veux leur donner ce conseil.
Moi ce qui m'énerve, c'est quand j'entends des élus adultes qui disent c'est bien les jeunes, continuer.
Non, ça c'est dangereux.
Parce que le jour où il y aura effectivement un problème, ces jeunes, ces adultes qui les ont poussés un peu à y aller.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idéologie écolo qui fait aller sur le terrain des jeunes.
Leur donner un conseil, encore une fois, je respecte et je salue leur action et je leur dis pas d'arrêter, je leur dis qu'il faut continuer, mais qu'ils se protègent et qu'ils fassent peut-être des actions
qui se mettent
plus poétiques, plus symboliques. Voilà. Et en tout cas, effectivement, comme tu l'as dit, Mehdi, bloquer le gars qui revient du boulot, c'est violent aussi, c'est parce que effectivement, il faut comprendre ce que c'est que la souffrance d'être dans sa bagnole pendant des heures pour aller au boulot.
Surtout, tu rentres crevé, contre-productif. Voilà. Ce qu'ils comprennent pas ces gens-là, c'est que c'est surtout contre-productif.
Et donc ils sont sur une zone extrêmement dangereuse. Et peut-être qu'il y a des manières aussi efficaces.
Se retrouvent contre.
Non, mais ils sont chauffés par les des élus. Il a raison.
Ils sont chauffés par des politiques qui ne font
rien. Moi, je suis à leur disposition pour du conseil s'ils veulent sur des stratégies de communication plus efficaces.
Il faudrait qu'ils trouvent des modes d'action qui associent les gens.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu fais une action comme ça et que tu associes les Français
parce
à ces
sur la rénovation au terme,
tout le monde serait d'accord.
Parce que tout
mais moi,
d'accord.
Ce que je leur dis à dernière rénovation, c'est d'aller chez les gens qui ont besoin d'aide et de faire de la rénovation, faire un chantier réno.
Ça, c'est pas mal.
Et ben, il y a besoin de bras pour faire du terre-paille, c'est presque gratuit.
C'est quoi le terre-paille?
Terre-paille. Tu sais, tu prends de la terre et de la paille, ben c'est le torchis, c'est oui, une solution d'isolation très efficace.
Quand t'habites dans un immeuble de 23 étages,
parle pas de Paris. Mais symboliquement, ça c'est une action qui pourrait se faire.
Idiot,
parce qu'ils en parlent, ils connaissent pas l'isolation.
Ils
ont jamais fait l'isolation.
Non.
C'est très bien qu'ils y mettent les mains. Et donc ils vont collectivement faire des chantiers massifs à 500, c'est sympa, ils se rencontrent et ils aident quelqu'un qui est à la campagne à isoler sa
ferme. Avec un compagnon du devoir par exemple.
Voilà, non mais il y a des trucs intéressants à faire et bon enfin, je vais pas leur dire comment ils veulent s'ils veulent discuter avec moi, ça m'intéresse. Mais en tout cas, essayer de faire des trucs plus poétiques, plus positifs et plus porteurs d'espoir et qui mobilisent les gens. Et je dis pas qu'il faut s'interdire les blocages, mais choisissez stratégiquement et vous mettez le moins en danger possible. Faites au moins un barrage de voiture.
Je vote l'amendement Alexandre.
Rudy, voilà. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Rudy du Val d'Oise. Alors, que pensez-vous de ces actions? Alors, est-ce qu'il faut être plus dur avec ceux qui les font ou pas?
Alors, en fait, moi, je vais mettre un peu de contexte. Alors, premièrement, je les trouve pas du tout courageux ni... Enfin, toutes les louanges qui leur ont été faites, je les trouve pas du tout justifiées. Alors moi, je vais mettre un peu de contexte. Donc, je suis taxi médicalisé. Je fais partie d'un groupement d'une vingtaine de taxis médicalisés qui est situé dans l'Oise et dans le Val d'Oise. Et nous, souvent, on dépose à Paris parce que c'est à Paris où il y a les grands hôpitaux spécialisés et les cliniques spécialisées. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, en fait, nous, on a eu, surtout le matin, pas trop le soir, une fois le soir, mais surtout le matin, on a eu... des blocages. Et en fait, nous, on a un planning à la... Attendez, excusez-moi.
Je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
On a un planning à la journée. Et ce planning-là, il est, je vais pas dire chronométré, mais pas loin. C'est-à-dire que nous, on a des rendez-vous à respecter. On a des... voilà, c'est très chronométré. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, en fait, on fait beaucoup d'enfants autistes. Donc, il faut déposer à des rendez-vous spécialisés. Et on fait beaucoup de cancers, quasiment que des cancers. Et le problème qui se pose, c'est que en fait, en bloquant les
voies,
les routes, nous ça nous retarde. Et après, on peut plus accepter les gens qui ont des rendez-vous dans Paris. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs patients qui quand ils veulent réserver chez nous, mais pas que chez nous, hein, chez plusieurs plateformes de taxi médicalisés. Quand c'est dans certaines zones à Paris, on les refuse. Ou par exemple, dans des cas encore plus graves, ce qui se passe, c'est que c'est des enfants. Moi, c'est ce qui ça m'est arrivé personnellement. Le soir, un enfant, du coup, qu'on ne récupère pas, ou du moins qui attend des heures et des heures, plusieurs heures, hein, avant qu'on le récupère, parce que quand ces gens bloquent, bah, ils bloquent. Ça, c'est la situation, elle se débloque pas en quelques minutes. Ou par exemple, des traitements de cancer. Ouais. Un traitement qui s'appelle le TEPSCAN. En fait, c'est un truc assez particulier parce qu'en fait, c'est un traitement qui est réalisé.
Donc, attention aux conséquences de ces actions de blocage, quoi, en fait, Rudy. C'est ce que vous dites.
Bah ouais, merci pour votre témoignage. Hein. J'espère qu'ils vous écoutent.
Quand tu bloques une voie, tu sais pas, t'es convaincant.
Ouais. En gros, là, il y a des mères de famille qui se retrouvent sans solution pour déposer leurs enfants autistes dans les centres spécialisés. Ouais, voilà. Nous, en tout cas, il y a plusieurs personnes.
Et un jour, il y a un mec qui va vriller. Ben, vous avez tout à fait raison, parce qu'un jour, parce que moi, j'ai vu sur les vidéos, comme quoi il y avait même des mamans, enfin, des femmes qui commençaient à péter les plombs en criant. Mes gosses sont dehors devant l'école, ils m'attendent. J'ai mes enfants qui m'attendent devant l'école. Et tu rentres dans une situation telle que celle-là,
Merci Rudy d'avoir été avec nous. Les blocages des routes par les écologistes, ces actions coup de poing, est-ce que ça va trop loin? C'est la question qu'on vous a posée. C'est quand même un oui très majoritaire, hein, à plus de 87%. Merci à tous d'avoir donné votre opinion là au 32-16. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les indiscrets du service politique d'RMC, Gabriel Attal, le ministre des comptes publics, hein, qui va aller passer la nuit avec des travailleurs nocturnes. Il va aller découvrir la France qui travaille de nuit, Gabriel Attal.
Ça fait pas de mal.
On va vous raconter ça dans un instant, puis il y aura le quiz des GG.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est tous les jours que l'on vous attend au 32-16 pour discuter, pour débattre avec les GG. Aujourd'hui, l'homme qui déclenche la colère sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est fait son petit aller-retour pour aller voir le match Espagne-Allemagne, c'est Mehdi Guezard, chef d'entreprise qui est avec nous. Il se met lui-même un carton rouge. Non, tu te mets un carton jaune ou un carton rouge?
Non, moi je me mets pas de carton.
Tu te mets pas de carton.
Je mets un carton à ceux qui veulent être la bien-pensance et interdire tout à tout le monde.
Voilà. Nous sommes avec Zor Habitant, cadre de la fonction publique. Alexandre Mafoudi est avec nous, militant associatif écologique qui vit du côté de Bordeaux. Et c'est l'heure des indiscrets GG, 11h moins le quart.
RMC Les Grandes Gueules.
Les Indiscrets.
Les Indiscrets GG avec Sébastien Krebs qui est avec nous du service politique de RMC. Bonjour Sébastien.
Bonjour les GG.
Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, va inaugurer un type de déplacement inédit.
Oui, le ministre va faire nuit blanche ce soir pour aller à la rencontre, je cite, de la France qui bosse de nuit. Départ minuit et demi, retour 7h demain matin, direction Chartres, pour aller voir les ouvriers d'une usine qui font les 3-8, mais aussi les soignants qui seront de garde à l'hôpital et un boulanger qui sera au fourneau. Le but, montrer que les dispositifs votés dans le budget ont des effets concrets sur le terrain. Les ouvriers choisis ont touché la prime Macron, les soignants une prime exceptionnelle de nuit votée au mois de juillet. Le boulanger, lui, aura droit à une annonce, un nouveau dispositif à venir pour booster le pouvoir d'achat des travailleurs indépendants. Voilà, valoriser ceux qui travaillent, Attal veut en faire son credo des prochains mois.
Alors, la France qui bosse de nuit, ça nous rappelle quelque chose, ça rappelle un peu la France qui se lève tôt.
Le slogan de Nicolas Sarkozy. Ouais. Alors, c'est un peu ça, et ça doit probablement éveiller l'intérêt de l'ancien président. Ce qui est sûr, c'est que le ministre multiplie les messages à l'égard de cette classe moyenne qui travaille. Ça avait commencé dans le Parisien le week-end dernier, des Français qui se sentent parfois oubliés, explique-t-on au gouvernement, qui ont le sentiment que l'échec, ça n'est pas toujours pour eux. Derrière, il y a la crainte de voir arriver un mois de janvier très difficile avec les tensions sur l'énergie, les risques de coupure de courant, on a entendu la Première Ministre en parler hier, l'inflation, et tout cela avec une réforme des retraites qui va arriver au Parlement, contexte lourd, rentrée délicate pour les ministres.
Alors en plus, Gabriel Attal, on lui prête pas mal d'intentions en ce moment.
Et d'ambition, hein. Il y a ceux qui évoquent ses intentions pour la mairie de Paris. Le ministre étant allé en première ligne ces derniers jours au combat contre Anne Hidalgo. Alors ses déplacements en région, c'est aussi une manière de montrer que la priorité, elle est plus immédiate. C'est d'abord l'hiver qui vient. Le gouvernement anticipe qu'il sera essentiel cet hiver d'être sur le terrain, d'occuper le terrain aux côtés des Français.
Alors Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui va aller avec la France qui travaille de nuit. Zora?
Ce qui aurait été quand même mieux, ça aurait été d'avoir un ministre qui a déjà travaillé de nuit. Ça aurait été quand même un peu plus simple.
Au Parlement, il y a quelques nuits quand même. Hein.
Oui. Non, mais quand je dis travailler de nuit, jusqu'à nouvel ordre, ceux qui nous gouvernent ne sont pas essentiellement, en tout cas, en grande partie, des gens qui savent ce que c'est travailler ou qui ne sont pas déconnectés avec le terrain. Ça ne veut pas dire, alors moi je suis pas anti-élite, je suis pas anti-bourgeoisie, c'est pas du tout ma tasse de thé, n'empêche qu'on a un vrai problème, parce que la déconnexion, elle est réelle. Je vais vous expliquer comment. Moi je suis issu de classe populaire, très pauvre même. On monte de classe sociale dans sa vie, certains oui, d'autres non, et on monte de classe sociale. Même quand on arrive à classe moyenne, on est déjà déconnecté des classes inférieures, et ainsi de suite. Alors imaginez, quand l'élite se reproduit entre elles, la déconnexion immense qu'ils ont. Et au lieu d'avoir l'ingénieuse idée, pour le sens de l'intérêt général, pour le bien commun, et pour être efficace, d'avoir en leur sein des gens qui sont issus de ces classes, pour justement vérifier la pertinence de leurs mesures, vérifier la fiabilité, l'utilité sociale, etc., l'efficacité de ce qu'ils proposent, c'est pas en allant faire la tournée de nuit avec 25 caméras pour dire bonjour monsieur le boulanger, vous allez bien? Très bien. Alors les 150 euros que vous avez eu, c'était parfait? Ah ben le boulanger, qu'est-ce qu'il va répondre? Moi j'en ai marre, etc. Donc c'est contre-productif, mais d'avoir tout le temps l'oreille de quelqu'un qui dit moi je suis sur le terrain, je vous explique, une caissière ça vit comme ça, etc. Il est là, c'est-à-dire que les Français sentent qu'il y a un monde entre les gens qui nous gouvernent et c'est de pire en pire. Et c'est pas parce qu'on fait rentrer à l'Assemblée nationale des gens de classe populaire qu'au niveau du gouvernement et de l'État, il y a une oreille attentive. Il faut des gens qui murmurent à l'oreille de ces gens pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions.
Que là, c'est...
Ça n'enlève rien à l'intelligence de M. Attal, ça n'enlève rien à son travail, ni au personnage, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est aller faire des tournées de nuit.
Bah c'est la com à la Giscard, on n'a rien inventé. Giscard d'Estaing, en son temps, invitait des éboueurs, ou se faisait inviter chez des Français, ou invitait des éboueurs à dîner à l'Élysée. Ils ont tous fait ça, la tournée.
Je suis d'accord avec Zora sur les élites déconnectées. Moi, ce que je veux dire, c'est que, il y en a marre de la planche à billets. C'est pas des aides qu'on veut. On veut gagner notre vie dignement, quoi. On veut pas dépendre du RSA, de primes, de machin truc. D'abord, on est en train de ruiner la France. Il y a la récession qu'on va se prendre, la vague, la deuxième vague, ça va être la récession. Et en plus, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que les gens gagnent leur vie par leur travail, qu'ils soient payés dignement pour le boulot?
Que l'État soit là que pour le régalien.
Voilà, on en a marre de dépendre des aides, parce que c'est dans la paysannerie, c'est pareil, on dépend de la PAC. C'est insupportable, on veut gagner notre vie, c'est tout ce qu'on demande.
Merci Monsieur Sébastien Krebs, à demain pour de nouveaux indiscrets politiques. Merci. Tout de suite, le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
T'as des poils, des plumes sur ton sweatshirt, un Nice Saints.
Elle a mis une doudou dans
le sweatshirt. C'est du dentifrice de ce matin.
Je me suis roulé par terre avant de rentrer en plateau. Les GG.
Le quiz.
Demain au Qatar, il y aura une grande première historique lors d'une Coupe du Monde. Ce sera l'occasion du match Costa Rica-Allemagne. De quoi s'agit-il? On attend la fin de la question.
Pardon, excusez-moi.
Donc vas-y, c'est la fin de la question.
Enfin, qui a la bonne réponse? Qui pense avoir la bonne réponse?
Non, l'arbitre, c'est une femme et c'est une Française.
Bravo! Effectivement, ce sera une femme qui arbitrera, une Française en plus, Stéphanie Frappard, qui va devenir la première femme à arbitrer une rencontre de Coupe du Monde.
Mais qui est la seule femme sélectionnée d'ailleurs pour cette Coupe du Monde.
Exactement. Les GG, quelle vitesse maximale sur autoroute a-t-on déjà connue en France?
150.
150, je crois.
Non.
Autorisé ou en excès de vitesse?
Non, autorisé.
160.
Non, moins.
140.
Effectivement, 140 km/h. C'était en 1974.
Le bon vieux temps, Mehdi.
La limitation était d'abord à 120. Écoutez-moi, s'il vous plaît. À 120 km/h, c'est la première limitation de vitesse qu'il y a eu sur autoroute. Mais après le choc pétrolier et les prix des carburants qui avaient doublé, Pompidou avait voulu faire un geste vis-à-vis des automobilistes en passant à 140. Mais la mortalité routière avait explosé en quelques mois. On est donc passé à cette époque aux 130, les 130 qu'on connaît aujourd'hui.
Et qui sont remis en cause, puisque beaucoup militent pour passer à 110 sur autoroute.
Exactement. Est-ce que ça a été un casse-tête pour vous, les GG, pour trouver le prénom de vos enfants? Est-ce que vous avez cédé face à votre compagne ou compagnon ou vous avez trouvé assez rapidement le prénom de vos enfants?
Mehdi.
Moi, c'est sa mère qui a décidé. C'est
toi, tu dis c'est mon épouse. Tu peux parler plus fort et articuler pour ceux qui t'écoutent. Ouais.
C'est mon épouse qui a décidé du prénom de mon fils. Il a le prénom de mon père en second prénom, mais c'est mon épouse qui a décidé.
Oui, mais t'as validé son choix.
Non. Elle m'a tellement embêté pendant ces 9 mois de grossesse. Elle m'a tellement insulté tous les noms parce qu'elle était enceinte. Que,
si elle nous écoute.
Le prénom, c'est
Ilan. Donc, c'est elle qui a décidé.
Zora.
Non, tu avais galéré pour les prénoms ou pas?
Non. Le premier, c'est son papa. Et le deuxième, c'est ma belle-maman.
Alors, t'as jamais été toi qui a décidé?
Non, mais c'était sympa, donc j'ai dit oui.
Alain, Olivier, pas de regret?
Non,
mais parfois, c'est des grosses discussions. Ouais.
D'accord.
C'est un vrai casse-tête. Parfois, un parent sur sept regrette le prénom de son enfant, selon une étude publiée dans le Mirror. Alors, pire encore, un parent sur 20 regrette tellement qu'il trouve un surnom à son enfant parce qu'il n'arrive pas à l'appeler par son vrai prénom. Ça peut être même déclencheur d'un baby blues pour certaines mamans.
Ah, carrément.
Bah oui.
Ah, ça, j'aurais pas dû t'appeler comme ça finalement quand je te regarde. Et
c'est la recherche des prénoms trop originaux.
Non, et parfois quand on regrette, c'est ce que dit cette étude, c'est parce qu'on essaye de donner un prénom à la mode, ce qu'il ne faut surtout pas faire, à mon avis.
Pourtant, c'est courant, pas d'enfant, c'est la plupart des gens, beaucoup.
Voilà, est-ce que vous
par
aimez.
Par exemple, Elisabeth, il faut pas.
Mais est-ce que vous aimez.
Elle est à la mode en ce moment, Babette.
Eh ben, il y a un de mes petits-enfants, je sais pas lequel, qui a un petit copain qui s'appelle Marcel.
Ouais, ça revient à Marseille.
La tribu amérindienne donnait un premier prénom provisoire à l'enfant et ensuite, en fonction d'un fait important qui lui arrivait dans la vie, on lui donnait son prénom définitif.
On peut changer de prénom, je crois, aujourd'hui.
Lucarne. Tu vois, par exemple, finale de Coupe du Monde, t'appelles ton fils Lucarne.
Je suis sûr qu'il y aura des Kylian si on va loin.
Est-ce que vous aimez votre prénom, vous?
Oui.
Oui.
Ouais.
On s'y habitue.
Ah, on sent quelqu'un qui a
moi j'ai un prénom ultra à la mode de mon époque, donc j'aime pas être comme tout le monde.
Oui, c'est ça, moi ils s'appelaient tous Olivier. J'ai toujours eu 50
Olivier
dans mes classes.
En plus, Alexandre, on t'appelle encore Alexandre, c'est plutôt Alex.
Alex, oui.
Oui, c'est ça, Alexandre est rapidement.
Et comme Maxime, on dit Max.
Oui. Alexandre, c'est Alex et
Antoine. Alain, c'est Al, et puis il n'y en a plus. Je dois être.
Il n'y a plus beaucoup d'Alain.
Je suis en voie d'extinction, moi, non.
Non, mais qui revient, il y a Jeanne, Marcel.
Oui, les vieux prénoms.
Oui, ils reviennent.
Les GG.
Simon, Jules.
Oui, Jade. Moi, j'adore
Trifon,
le prénom
moins
Jade,
Trifon. Trifon. Qu'est-ce qui t'arrive, Anaïs?
Non,
t'as bugué?
Rien du tout. Tiens, on fête les 40 ans d'un album. L'album le plus vendu
Michael
de
Jackson.
Tous les temps. Quel artiste et quel album?
Thriller.
Bravo, Michael les GG. Ah. Vous êtes trop forts. Effectivement, plus de 100 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 82. Une réédition cette année dans une version augmentée de 4 titres inédits. Du coup, Blind Test, les amis. Ah.
Donc, il va falloir reconnaître des morceaux.
Exactement, de Thriller. C'est allez, là, c'est parti. La première.
Non. Ah, des morceaux de Michael Jackson.
Bah oui,
ah, Started Something.
Oui, mais c'est pas dans Thriller, ça.
Wannabe Starting Something. Voilà.
Ah,
c'est
oui.
Thriller.
Ah, c'est Thriller.
Oui. Ah, bon. Oui. La suivante.
On est nul.
Et ramé complètement.
Ça, c'est Thriller.
Ouais, non, c'est
Billie Jean.
C'est Thriller.
Ouais, c'est Billie Jean.
Ouais, c'est Billie Jean.
Non, c'est Thriller.
Non, mais.
Oh là là, je suis largué, moi.
J'ai joué. D'ailleurs, le clip le plus long de l'histoire, je crois 12 ou 14
John
minutes,
qui
a été le plus cher aussi. C'est parti, l'autre.
Ah bah ça, c'est...
Beat It.
Oui, Beat It.
Oh là là.
Billie Jean, ça ressemble
avec
à chaque
le,
fois.
Le,
ça ressemble,
le,
ah,
avec
oui.
Le solo des Van Halen.
Oui.
Billie Jean, voilà.
Ah,
c'est celui-là, enfin.
Voilà. On va continuer à répéter au bout de 4 fois.
Ça, ça n'a pas vieilli d'une rythme.
Non.
C'est génial.
Ouais.
Album produit par...
C'est un album génial.
Quincy Jones, fantastique producteur qui avait notamment
et
produit
Sinatra, Grand
Bézi et autres.
Le premier extrait de cet album, c'était pas Billie Jean qui est devenu le méga tube, même si toutes les chansons sont connues, c'était The Girl Is Mine.
Ah oui,
le duo
oui, oui.
Avec Paul McCartney.
Oui, je l'ai pas mise.
Qui est pas,
que
qui est pas génial
ça.
Et c'est le premier extrait qui n'a pas marché. Donc ils ont commencé à s'inquiéter et ensuite ils ont sorti Billie Jean.
Combien il a vendu l'album? Combien il en a vendu?
100 millions. Une petite dernière.
C'est celle-là.
Le titre est dur. Ouais. Oh bravo. Bah oui, parce que je connaissais pas le titre. Je connais évidemment la chanson, je connaissais pas le titre. Bravo les GG, c'est pas mal.
Ouais.
Merci pour ce quiz. Pardon, fan. Qui l'a l'album de Michael Jackson?
Moi, sur Deezer, moi je l'ai.
Moi, c'est pareil.
J'avais
les albums en objet physique, ça n'existe plus. T'as encore tes vinyles ou pas? Tu as encore des vinyles ou pas?
Non, pas de vinyle.
Allez, dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules. À vous de choisir. Réforme des retraites, le calendrier se précise ou le jeu Antifa vendu à la FNAC. Est-ce que c'est choquant? Vous avez choisi de parler du jeu Antifa vendu à la FNAC. Vous trouvez ça choquant, oui ou non? Dans tous les cas, vous voulez en parler et c'est au 32-16 que ça va se passer. A tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.